Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans À quoi qu'on joue, votre rendez-vous mensuel sur le jeu et sur l'actualité ludique dans la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu et j'animerai cette émission. Comme chaque mois, je reçois des invités qui viennent nous parler de leur actualité ou partager avec nous leur passion. Aujourd'hui, je reçois Marie, Thomas et Geoffrey de chez Ekat Éditions. Bonjour et bienvenue à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien? Oh, ça faisait une belle chorale, c'était mignon comme tout. Vous allez bien?
Bah oui, très bien, et toi?
Très bien aussi, merci beaucoup. Tout d'abord, merci d'être mes invités aujourd'hui pour cette émission du mois de décembre. Alors, Marie, Thomas, Geoffrey, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Marie, je t'en prie, honneur aux dames.
Bah alors du coup, enchantée à tous, je m'appelle Marie, et donc je suis la responsable création de Ekat Éditions. On va développer peut-être un petit peu plus tard ce que c'est, donc voilà.
Très bien, merci Marie. Thomas.
Moi je suis Thomas, je suis le président du coup du projet, hein. c'est moi qui gère on va dire toute la partie administrative et l'équipe du projet, on reviendra dessus tout à l'heure aussi, mais voilà.
Très bien, et Geoffrey?
Et pour faire comme mes compères, eh bien, je suis Geoffrey, je suis responsable jeu de rôle, animation ainsi qu'écriture avec Ekat Éditions.
Très bien, merci. J'ai une petite habitude dans l'émission. Notre émission, vous le savez, s'appelle « À quoi qu'on joue ». Alors vous, à quoi vous jouez? Me répondez pas le jeu de rôle, hein.
Alors, globalement, donc à beaucoup de jeux société et de jeux vidéo. Et je pense qu'en ce moment, je joue quand même pas mal. Et jeux de rôle, bien sûr, aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Forcément, mais bon, t'as dit pas jeux de rôle. je pense qu'en jeu de rôle, en ce moment, je joue beaucoup quand même à Aria, qui est un système de jeu qu'on aime beaucoup. Et sinon, en jeu de société, les Demeures de l'Épouvante.
D'accord, les Demeures de l'Épouvante, ça sonne drôlement bien ça.
Oui, j'adore.
Et toi Thomas, à quoi tu joues?
Alors moi je joue beaucoup pareil, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société, on brosse un petit peu tous les sujets. Là en ce moment j'aime beaucoup Zombicide en jeu de société.
D'accord, oui, bien
qui
sûr.
Qui est un petit peu le pont entre le jeu de rôle et le jeu de société. Ouais. Et aussi les Demeures de l'Épouvante qui est exactement dans la même vibes, un petit peu côté jeu de rôle, un petit peu côté jeu de société.
Je suis désolé Geoffrey, ça fait deux qui me parlent des Demeures de l'Épouvante, pardon. Je sais pas ce que c'est, faut m'expliquer.
Alors ouais, Demeures de l'Épouvante c'est un univers de jeux de société qui se déroule dans un je sais pas, début du 20e siècle, ouais. dans une ambiance un petit peu Lovecraftienne, avec beaucoup de monstres, avec des jeux de société qui sont scénarisés. On est souvent accompagné d'ailleurs d'un maître du jeu un peu fictif, donc avec la tablette ou avec son portable à côté, où ça nous raconte l'histoire au fur et à mesure du jeu de société.
D'accord.
Et c'est aussi un jeu qui est très difficile, même en mode facile, avec des histoires qui sont très difficile d'arriver au bout, où les personnages doivent se battre contre des monstres et qui doivent essayer de résoudre un petit peu la situation basique de sauver le monde, mais qui n'y arrivent pas. Et Zombicide, on est un peu là-dedans aussi d'ailleurs, on est souvent sur des scénarios très difficiles.
Sûr.
Bon, il n'y a pas de narrateur sur Zombicide, mais c'est des scénarios très difficiles dans lesquels il faut combattre des monstres et pareil, faire évoluer les personnages au fur et à mesure des parties, mais c'est pas évident.
Voilà. D'accord, très bien, merci. Et alors, Geoffrey, toi, à quoi tu joues?
Eh bien, hormis le jeu de rôle qui, on va dire, consomme une bonne partie de ma vie.
Étrangement, c'est chronophage.
Étonnamment. actuellement, je dirais bien que je joue à Magic, le fameux jeu de cartes maintes fois connu et reconnu.
Bien sûr.
Mais pour impliquer le fait que j'y joue, faudrait oublier le fait que je perds à chaque fois. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment une notion d'amusement, mais en tout cas...
Alors ce qui compte, c'est de t'amuser. Après, il faut voir effectivement si perdre à chaque fois, ça nuit à ton jeu. Mais bon, a priori, si tu continues d'y jouer, c'est que ça se passe plutôt
c'est
bien.
C'est ça, syndrome de Stockholm.
Donc vous êtes, je vais dire les fondateurs d'Ekat Éditions. Alors, qu'est-ce que c'est Ekat Éditions?
Ekat Éditions, donc c'est un projet qu'on a ensemble depuis quand même pas mal de temps, presque 3 ans. Et c'est un projet qui est en train de se former, qui est une maison d'édition de jeux de société et de jeux de rôle.
D'accord.
Et également une maison d'animation de jeux de rôle. Donc voilà, notre but, c'est simplement de créer des jeux, de faire en sorte que les personnes qui veulent créer des jeux puissent se tourner vers nous pour qu'on puisse les aider à réaliser leur projet. Et en parallèle, on anime des séances de jeux de rôle à Nevers. Voilà, donc on leur propose des univers faits maison, avec des règles faits maison, et dans une ambiance très particulière, parce qu'on propose son, lumière, on propose vraiment une expérience très...
immersive.
Très complète et immersive.
Super, super, merci beaucoup. Vous êtes situé où?
Alors on est à Place Chaméane, en tout cas notre salle de jeu de rôle est située à Place Chaméane. On n'a pas encore de siège social vraiment, mais voilà, on fait tous nos travaux là-bas.
Vous existez depuis quand?
Alors l'entreprise a été créée en juin de 2023, mais le projet lui existe depuis plus longtemps. On avait déjà commencé d'ailleurs des travaux avec des créateurs avant juin. Et à Nevers, notre local, il est ouvert depuis octobre. depuis le 9 octobre, du coup, la 2023, en haut de la place Lamaillade.
Très bien, super. Alors, avant qu'on détaille ensemble un peu toutes les activités que propose E4 Édition, moi, j'aurais aimé savoir comment est née l'idée de créer E4 et aussi pourquoi vous avez souhaité la baser à Nevers.
Alors, E4 Édition, donc c'est un projet qui est né il y a 3 ans. En fait, avec Marie, on sortait du Covid, donc du premier confinement, et je pense qu'on avait besoin de se remettre à créer quelque chose de plus, je dirais, humain, de plus relationnel, de plus physique. Et on s'est automatiquement tourné vers les jeux, à savoir que Marie et moi sommes passionnés de Lego, donc à la base.
D'accord.
On s'était remis à fond dans les collections Lego à la sortie du confinement. Et en fait, en tripotant un peu les Lego, on a commencé à avoir des idées de jeux de société, de jeux de rôle, en fait, puisque c'est aussi notre culture personnelle. Et à partir de là, on a commencé à créer un jeu de société qui s'appelle L'École de Sorcellerie, qu'on a commencé à développer tout l'automne 2020, et arrivé en 2021, en fait, on a pu le faire tester. Donc c'était anciennement le magasin d'Emmanuel Müller à Nevers, donc le faire tester aux joueurs de Nevers dans ce magasin là
ouais.
Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à avoir de nouvelles idées, on a commencé à avoir envie peut-être de s'investir un peu plus autour des jeux, et donc on s'est dit, bah banco, allons-y, créons une maison d'édition. Marie est formée pour faire entre guillemets du graphisme et de la création, moi je suis formé pour gérer une entreprise et pour faire du commerce. Il nous manquerait plus qu'un troisième pilier, Geoffrey, pour la partie jeu de rôle, qui nous a rejoint du coup en début 2023. Et ça y est, l'équipe est au complet, et on a aujourd'hui une maison d'édition qui se tourne autour de ces activités-là, de jeu de rôle, de jeu de société. Enfin voilà.
En fait, quand on a voulu faire éditer notre jeu et qu'on voyait que, ben, en fait, il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition qui étaient en accord avec ce que nous on avait comme valeur, comme principe, on s'est dit, autant créer la nôtre.
Voilà, bah, et puis même la complication aujourd'hui en France de vouloir faire éditer un jeu.
D'autant plus quand on veut produire en France exclusivement. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des jeux de société sont fabriqués soit en Pologne, soit en Chine.
Ouais.
Nous, on voulait quand même aussi s'engager un petit peu plus écologiquement et économiquement, et donc faire produire chez nous en France. C'est aussi ce qu'on essaye de faire avec E4 Édition. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à 100% maintenant. On travaille avec une imprimerie à Nancy et une autre à Nevers. Et puis, on voulait aussi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a installé notre projet à Nevers. On voulait s'investir, on va dire, pour notre territoire natal, qui est Nevers, dans lequel on a grandi, dans lequel on a envie d'apporter notre pierre un petit peu au développement local de cette ville, aussi en a besoin, et on a envie de participer à ça. Donc on a choisi Nevers, c'est peut-être pas le choix le plus simple, mais c'est celui qui nous tenait le plus à cœur.
D'accord, très bien. Eh bien, c'est super. C'est super qu'on ait une maison d'édition de jeux et de jeux de rôle à Nevers. Enfin, moi, forcément, je trouve ça super, hein, mais... mais voilà. Est-ce que vous savez combien il y a de jeux de plateau aujourd'hui qui sont édités par an, de manière générale, en France ?
Alors, je sais qu'on est à peu près on est arrivé là récemment à presque 135 éditeurs de jeux de société en France, dont une bonne moitié ne sont pas indépendants. D'ailleurs, par contre, je suis incapable de dire combien de jeux de plateau sont édités chaque année.
Je vous dis ça parce que forcément c'est un marché que je suis de près, et du coup j'ai eu les chiffres la semaine dernière. Il y a eu en 2022 et il y aura en 2023 7000 jeux édités, alors qu'on parlait de 5000 avant. Et avant, quand je dis avant, c'est en fait 2021 et 2020, et on parlait de 4000 seulement, entre guillemets, avant le Covid. Ce qui était déjà 4000 était déjà un chiffre énorme. On l'a presque doublé. Il y a 7000 jeux qui sortent aujourd'hui par an. Jeux de plateau, hein, pas jeu de rôle.
Oui, ça m'étonne moyennement.
Non, ça m'étonne pas non plus.
M'étonne moyennement. J'ai vécu un peu en Allemagne en 2022. Je suis passé 6 mois là-bas pour mes études, et ils ont une culture du jeu de société qui est largement plus large que la nôtre, et forcément ça allait se répandre en France au bout d'un moment, et on allait finir par rentrer là-dedans. Quoi.
Pendant des décennies, c'est l'Allemagne qui a été le plus gros producteur de jeux de plateau, jusqu'à assez récemment, où c'est la France qui est devenue le plus gros producteur de jeux de plateau. Mais avant, c'était l'Allemagne, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de créateurs de jeux qui étaient allemands, du coup, en toute logique.
Même avec leur culture du jeu, avec leur concours annuel, le Spiel des Jahres, qui est très connu, qui met en avant des jeux généralement très originaux, etc. C'est vrai que là-bas, ils ont vraiment une culture du jeu. Moi, j'étais impressionné quand j'y suis allé.
Et en fait, il y a une culture du jeu qui est dans l'Allemagne et les pays qui sont autour, mais on en retrouve les échos dans le nord de la France. C'est-à-dire que si vous allez dans des pays comme la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, dans tous les bars, vous allez trouver une étagère avec des jeux. Ce qui n'est pas le cas en France. Il y a des bars qui en ont, bien sûr. On a même les bars à jeux maintenant, mais hors bar à jeux, en France, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bars où on trouve encore des étagères à jeux, alors qu'on en trouvait dans les années 50, où on trouvait toujours un petit jeu avec les jeux super populaires et très classiques comme le 421, le Yams ou des jeux de cartes. Aujourd'hui, c'est plus le cas, enfin, ça s'est perdu. Et, sauf dans le nord de la France, où on trouve encore des établissements comme ça. Et si vous allez en Allemagne, en Belgique, dans tous les bars, il y a une étagère à jeux, c'est incroyable. Avec des jeux récents, hein, du coup, pas comme nous, avec un vieux 421 qui traîne et des jetons qu'ont 50 ans. Enfin bon, voilà, c'était la petite digression histoire du jeu. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Vous nous avez apporté des morceaux, de la musique un peu pour cette émission. On va commencer par un morceau de la BO du film de Tarantino Django, un morceau qui s'intitule Freedom. C'est parti. Was on my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth had discovered, no telling how all this will work out, but I've come too far. Freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I had. Voilà, c'était un morceau de la BO de Tarantino, du film Django. Alors, c'est toi, Geoffrey, qui nous a apporté ce morceau.
Tout à fait.
Alors, on rigole parce qu'on se demandait justement pendant la pause musicale. Geoffrey, pourquoi ce morceau ?
Eh bien, c'est très simple. On a donc trois univers à E4. L'un d'entre eux est externe. C'est un univers un peu western, fantastique, dirons-nous.
D'accord.
Dans le sens où il y a vraiment des notions très steampunk. Et un peu de créatures, on va dire, occultes, mais où on reste sur quelque chose de très plausible avec un monde qui a des fonctionnements proches du nôtre, mais en n'étant pas le nôtre.
Ouais.
Et cette notion un peu de la musique Freedom, etc. Et cette ambiance très western,
ouais.
Je trouve que ça colle parfaitement à notre univers.
D'accord, très bien. C'est une excellente raison. Alors, reprenons E4 Éditions, donc ses plusieurs activités. Je vous propose qu'on commence par les jeux de plateau qui sont édités par E4. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est votre gamme ? Messieurs, alors... mesdames, les éditeurs, quelle est votre gamme de jeux de plateau ?
Alors, à savoir déjà pour l'instant qu'on se concentre principalement sur la partie jeux de rôle.
Ouais.
Donc les jeux de plateau qu'on a pour l'instant en projet ne sont que des projets. On n'en a pas publié encore, donc ça c'est important de le noter. Et donc notre premier jeu de plateau, c'est déjà l'école de sorcellerie, évidemment, qu'on souhaiterait pouvoir publier d'ici l'année prochaine, puisque c'est notre premier jeu, ça nous tient à cœur, on l'a fait tester.
Alors moi j'avais fait une partie test il y a un an et demi, deux ans je dirais. Voilà.
Donc on a vraiment hâte de pouvoir le publier. Alors on a plein de nouvelles idées pour le remettre un peu au goût du jour, parce qu'on se rend compte qu'en trois ans on a aussi beaucoup maturé dans nos esprits, dans la manière de voir et de percevoir les jeux de société. Après, en autre jeu de plateau, je crois qu'il y avait un projet, Marie, t'avais Puzzle.
Oui, Puzzle. Puzzle. Alors, ça ressemble pas beaucoup à l'école de sorcellerie dans l'univers et l'histoire. Par contre, en termes de format, donc ouais, c'est du plateau et des cartes. Donc pareil, l'école de sorcellerie, c'est des gros jeux, entre guillemets. C'est pas non plus des jeux qui durent 3 heures une partie. Mais ça va être des jeux qui vont bien faire... 20 minutes, 30 minutes une partie, donc plateau et cartes comprises, donc ça serait nos deux premiers.
Voilà.
En jeu un petit peu plus court, qu'on peut faire plus rapidement, qu'on peut faire plus entre amis à l'apéro, j'ai une bêtise, mais on va avoir Le Bon, la Brute et le Fuyant, donc ça pour le coup...
Ouais, qui est un jeu de cartes western aussi. Un petit jeu de cartes sympathique pour toutes les familles qu'on est en train d'équilibrer là en ce moment, parce qu'il y a pas mal de problèmes d'équilibrage, même si c'est un jeu de cartes, c'est quand même pas évident à équilibrer. Et puis bah, autrement, alors pour l'instant sur ces projets-là, donc ça c'est des projets qu'on a en interne, et on commence là tous les mois, on fait une sélection de projets en fait, parce qu'on a des dizaines de créateurs qui viennent nous voir pour essayer de faire éditer leurs projets de jeux de société.
Ouais, bien sûr.
Et donc tous les mois on fait une sélection de projets, et là on a pour l'instant deux projets qu'on a sélectionnés. Le premier, ça serait pour ce qu'on appelle nous des collections signatures, c'est-à-dire des jeux de société édités en très peu d'exemplaires, vraiment créés par un artiste, donc qui n'est pas créateur de jeux, qui est vraiment artiste, et pour lequel on va lui faire des jeux à son image, dans son univers à lui, un petit peu perché aussi parfois. Et puis le deuxième projet qu'on a, c'est encore en discussion, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus, c'est un projet autour de l'univers du catch à la mexicaine, qui est un univers qui nous fait beaucoup rire et qu'on aimerait bien développer chez E4.
D'accord. Juste encore une question ou deux sur l'édition et sur la création de jeux de société, par exemple un jeu comme l'école de sorcellerie, en termes de temps de création, de développement, qu'est-ce que ça représente ? J'ai une petite idée, mais je vous pose cette question pour nos auditeurs, qu'ils soient joueurs ou non, pour qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils dépunchent une boîte de jeux qui font 3 parties de 20 minutes, combien de temps de travail il y a derrière ?
Alors c'est une question quand même très compliquée, parce que c'est clairement pas en 3 semaines qu'on fait un jeu.
Clairement.
Le projet a commencé à naître il y a 3 ans avec le début de la création de l'école de sorcellerie. Aujourd'hui, il n'est toujours pas sorti, donc je pense qu'il ne va pas tarder non plus.
Ouais.
Mais voilà, ça se compte sur quand même
des années
de création, d'alignage, de
perfectionnisme. Il faut quelques secondes pour avoir une idée. Et après, pour la transformer en quelque chose de concret, d'équilibré, en jeu designé, imprimé, produit, il faut des années.
Ouais.
Il faut des années.
C'est ce que disent certains auteurs de jeux de plateau connus et reconnus aujourd'hui en France. Je pense à Bruno Catala, par exemple, qui sort plusieurs jeux par an. Il ne les crée pas tous dans l'année, les gens ne se rendent pas compte. Mais en vrai, c'est qu'il a eu 4 idées il y a 5 ans. Et en 5 ans, il a effectivement 4 jeux qui sont sortis. Voilà. Ouais. Et que derrière un jeu, il y a des centaines de parties test, et il y a des centaines et des centaines et des centaines d'heures de...
Le
façonnage et de refaçonnage.
Exactement, le plus gros travail du jeu, c'est la partie de test, c'est la partie d'équilibrage, d'amélioration. C'est pas tellement le concept de base qui finalement en quelques semaines peut déjà avoir un premier prototype. C'est derrière, quand on veut s'adapter au comportement des joueurs, à leur envie, à leurs besoins, et aussi quand on veut lui attacher un univers graphique propre, qui soit bien à lui, c'est ça qui prend du temps réellement.
Il faut vraiment se rendre compte que les étapes de création d'un jeu, Il y a l'idée de base, il y a le premier concept, ensuite il y a le premier test, le premier
prototype.
Voilà, merci. Ensuite, donc encore les tests pour être sûr que ça fonctionne. La première impression, donc ensuite, il y a plein de choses qui vont se répéter en plusieurs étapes, donc forcément c'est quelque chose qui prend très très longtemps. Ensuite faire les graphismes, acheter le matériel pour imprimer les cartes, imprimer la boîte, le plateau, donc vraiment
je crois que c'est un défi supplémentaire de bien adapter aujourd'hui son graphisme à un jeu, à une époque où tous les jeux sont bien léchés, bien finis, où on a des jolies boîtes partout.
À une époque aussi où nous on s'en rend compte avec le nombre de créateurs qui viennent nous voir, où maintenant les créateurs font appel à de l'IA pour designer leurs jeux, ce qui nous gêne beaucoup encore personnellement chez 4 éditions, donc on ne travaille pas avec l'IA du tout, ni sur les concepts, ni sur le graphisme, mais à une époque où on doit prendre le temps de réfléchir nos graphismes un petit peu de manière artistique, et à côté on se fait un petit peu doubler par l'IA en termes de vitesse, parce que évidemment entre faire, nous je vois l'école de sorcellerie, c'est près de 250 dessins différents, c'est très long à produire, 250 dessins, c'est très long, en plus si on veut faire les retouches etc, avec une IA il nous faudrait une semaine grand max,
bien sûr,
juste le temps d'écrire
bien sûr,
ce qu'on veut,
je pense que c'est le côté IA va être un vrai scandale, et c'est même déjà le cas. J'ai lu un article la semaine dernière, il y a une grande maison d'édition de bande dessinée et d'autres choses d'ailleurs, qui a fait une collaboration avec un grand journal connu, on va pas citer les noms, mais c'était une première de couverture avec un viking à 6 doigts, et ça faisait désordre, ça faisait vraiment désordre, et puis ça s'est remarqué, et tout le monde se rejette la balle. Bon, voilà.
Mais sinon, un jeu de société, quand on le développe, c'est très chronophage, et en plus, nous, quand on se rajoute le défi de vouloir produire en France à côté de chez nous, de le distribuer en petite quantité et tout, c'est aussi très coûteux financièrement.
Ouais.
Voilà, c'est aussi des choses qu'il faut noter. Un jeu de société,
T'es en train de nous dire que vos jeux vont être super chers, c'est ça?
Tout à fait.
Justement, en plus, on voudrait être accessible, et on essaye déjà de l'être avec les jeux de rôle. D'ailleurs, on a un jeu de rôle qui est entièrement gratuit, qu'on publie sur le site internet. Mais on veut être accessible, mais justement, l'univers des jeux de société, s'il y a des créateurs qui nous écoutent, c'est un univers qui est quand même très complexe, qui est très long sur le temps et qui rapporte pas non plus grand-chose. Faut vraiment le faire par passion et faut vraiment être très intéressé par ça.
C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ce genre de détails, mais on peut effectivement dire qu'en moyenne, la rémunération d'un auteur par une maison d'édition, et je parle pas de vous, là, je parle d'une grande maison d'édition, aussi autour de 4%.
Ouais, c'est ça. C'est ça. 4% des ventes. Donc, ça fait 40 euros tous les 1000 euros de vente, à peu près, en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est rien. Et 4% pour le créateur, c'est encore assez large par rapport à certaines maisons d'édition qui versent même moins d'1% des fois.
Ouais.
C'est pour ça aussi qu'à E4, on essaie de mettre la lumière sur les créateurs et surtout aussi sur les créateurs et les artistes. De mieux les rémunérer, parce que c'est des travaux qui sont de longue haleine et qui sont pas faciles. C'est-à-dire créer un jeu et créer des illustrations pour le jeu, c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine.
Tout à fait, et puis il y a un côté aussi, un respect tout simplement aussi.
Oui,
artiste,
je crois que
c'est ça, quand on est auteur de jeu, si on n'a pas envie d'être payé 50 centimes de l'heure, si on veut ramener la création. Mais le problème, c'est qu'effectivement, quand on vous le disiez, là, on refait des parties test et on repense, tout ça, c'est des heures qui viennent de s'ajouter.
Exactement.
Si on devait transformer le numéraire en heures, je pense que les salaires.
Les
salaires sont à pallier.
Il faut se rendre compte que dans le développement d'un jeu de société, dans le prix final d'un jeu de société, il y a énormément d'intermédiaires aujourd'hui qui se servent à 20 à 30% à chaque fois. Les maisons d'édition, finalement, ne touchent pas grand-chose. Elles touchent en général moins de 20, voire moins de 10% par jeu de société, ce qui n'est déjà pas beaucoup au final à la fin. Et donc forcément, le créateur derrière, qui est un petit peu la première pierre du projet, mais aussi quelque part, c'est
le dernier maillon de la chaîne.
Il ramasse ce qui reste. Nous, c'est vrai que chez les 4 éditions, on essaye de mieux valoriser les créateurs en leur proposant une meilleure rémunération dans les pourcentages qu'on propose. Ça veut aussi dire pour nous supprimer certains intermédiaires, notamment des intermédiaires qui n'existent que pour faire du marketing, par exemple. Ouais. Alors, est-ce qu'on se tire une balle dans le pied sur la distribution? Je pense pas, parce que nous, on fait aussi pas de production de masse. Donc, on n'a pas 500 000 exemplaires à vendre, par exemple.
On va juste
vendre 2000 exemplaires dans des boutiques indépendantes. Donc, on va supprimer des intermédiaires pour essayer de rebalancer les pourcentages sur les créateurs.
Alors, est-ce que ça veut pas dire impliquer encore plus le créateur dans tout le processus d'édition?
Ça implique beaucoup plus le créateur dans le processus d'édition.
En vrai, lui va travailler plus aussi. Enfin, s'il est plus s'impliquer. Enfin,
forcément. Mais en fait, on conçoit, nous, les jeux aussi comme, je dirais, un film, en quelque sorte. Le réalisateur est très important dans la production d'un film. Il n'est pas juste là pour dire, pour donner des ordres. Et ben, nous, le jeu de société, c'est un peu pareil. Le créateur, c'est un peu notre réalisateur. C'est lui qui insuffle l'énergie qu'on va donner dans ce jeu, toute cette magie, toutes ces règles, tout ce concept. La maison d'édition n'est là que pour transformer l'essai, en fait. C'est-à-dire, on va l'aider à équilibrer. On va aussi l'aider à associer son concept à une logique un peu commerciale, parce qu'il faut être honnête aussi, il faut que ça plaise à un public, il faut que ça plaise aussi à des joueurs qui sont à un moment donné des clients par rapport à nous. Mais la maison d'édition n'est qu'un intermédiaire pour le créateur. On est là que pour transformer l'essai. C'est lui qui insuffle le projet, c'est lui qui le motive, et c'est son jeu aussi, à la base, c'est son idée.
Je trouve ça génial, voilà. Je vous le dis comme je le pense, je trouve ça génial. Alors, je vous propose qu'on refasse une petite coupure musicale, on revient tout de suite après pour parler jeux de rôle. On va écouter un morceau que Geoffrey nous a apporté, qui s'appelle Crashed, et qui, alors du coup, est chanté par Dautry.
Going down, yeah, yeah. Where I've been, well, it's all a blur. What I was looking for, I'm not sure. Too late and didn't see it coming.
C'était un morceau par Dautry qui s'appelle Crashed, on le rappelle. Pourquoi cette chanson, Geoffrey? Pourquoi tu nous apportais ce morceau-là?
Eh bien, pour rebondir avec le externe et Freedom, pour le coup, je voulais faire un côté un peu plus Nouvelle Frontière.
D'accord.
Et c'est vrai que même si on base le côté de Nouvelle Frontière sur le côté un peu injuste de la vie, hein, parce que c'est vrai que des fois,
c'est ça.
On n'est pas des héros, et effectivement, Nouvelle Frontière nous le rappelle. Eh bien, il y a aussi un côté très exploration spatiale, etc., la découverte, voilà, de nouveaux horizons qu'on ne peut même pas imaginer.
Ouais.
Et j'aime bien, en tout cas, cette musique, personnellement, me faire sentir cette ambiance-là.
Je vous propose, maintenant qu'on a parlé de la partie jeu de plateau, qu'on parle, puisque c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlerait beaucoup aussi de la partie jeu de rôle, donc parlons de la partie jeu de rôle chez Ekat Edition. Alors, c'est quoi la partie jeu de rôle? Attendez, on va reprendre. On la refait, deuxième. pour nos auditeurs les moins ludiques, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle?
Bon, je suppose que je m'y colle là.
Allez, vas-y.
Eh bien, en gros, un jeu de rôle, basiquement parlant, ça reste un jeu de société.
Ouais.
Où on va induire vraiment une idée narrative derrière. Donc effectivement, les séances de jeu sont bien plus longues.
Mmh.
Comptez à minima, je pense, 2 heures pour avoir une vraie session intéressante. Et où en gros, un maître du jeu va conter à des joueurs une histoire. Et où toute action qu'on va dire hasardeuse va être simulée par exemple par des lancers de dés.
D'accord.
Et le tout permet d'avoir un jeu qui est à la fois narratif et aussi amusant, parce qu'on n'a jamais un résultat sûr et certain.
Un petit détail important quand même, les joueurs interprètent un personnage les jeux de rôle. C'est central au principe du jeu de rôle, c'est-à-dire le fait pour le joueur d'interpréter un personnage fictif. Donc il a une carte d'identité de personnage avec lui, c'est ça Geoffrey?
Tout à fait, une fiche de personnage.
Et puis doit l'interpréter au travers d'une histoire que le maître du jeu dirige.
Tout à fait.
Pour faire court, on peut dire que le maître du jeu est un conteur d'histoire et les joueurs sont les personnages de cette histoire et interagissent dedans pour la modifier, pour avoir d'autres endroits, pour voir d'autres facettes de l'histoire en fait.
Voilà.
Alors je les regarde, je me marre à moitié en même temps parce que moi je fais du jeu de rôle depuis plus de 25 ans et je sais ô combien c'est difficile d'expliquer comme ça ce que c'est qu'un jeu de rôle, parce que c'est vrai que ça sort, c'est un peu en marge de quand on dit un jeu, on pense pas à l'activité du jeu de rôle parce que ça ressemble pas physiquement vraiment à un jeu comme ça de prime abord. Mais non, c'est très bien expliqué.
Et puis il y a un côté aussi intimidant, c'est vrai que donc je reviens sur ce que dit Thomas, qu'on interprète un personnage.
Oui.
On n'est pas non plus à faire du théâtre. Il y en a qui le font, parce qu'ils adorent ça, ils adorent interpréter à fond leur personnage. Ouais. Mais il ne faut pas être intimidé par cette chose-là.
Bah, et puis ça peut venir naturellement, de toute façon, au cours d'une partie. Enfin, on voit des gens un peu introvertis qui, d'un seul coup, ils sont dans la peau de leur perso, ils commencent à jouer et on s'aperçoit qu'ils sont très à l'aise. Parce que c'est plus le quotidien, on est dans l'univers et on est dans le monde du jeu.
On est quelqu'un d'autre aussi, c'est ça. Aussi qui joue.
Mais il faut les pousser à aller à leur rythme en jouant, c'est ça.
C'est ça, c'est avant tout un jeu de société. Et ça, c'est très important. C'est de la stratégie, du hasard,
de l'imagination,
de la narration. C'est la première chose qui revient dans un jeu de rôle, c'est le jeu de société. Finalement, la partie théâtrale n'est qu'un bonus à une bonne partie de jeu de rôle.
Voilà, moi je pense que c'est indissociable au jeu de rôle, la partie interprétation, ce qu'on appelle le role-playing, le role-play, c'est-à-dire le fait d'interpréter son personnage. Et c'est vrai que moi je trouve que par exemple la mécanique de jeu vient après l'interprétation du personnage. Mais ça c'est parce qu'il y a au moins deux écoles de rôlistes, donc les gens qui font du jeu de rôle. Il y a des gens qui vont mettre plus en avant la mécanique de jeu et éventuellement sortir un plateau, même si on ne joue pas un jeu de plateau, mais vont sortir un plateau qui a un décor et des figurines pour qu'on puisse visualiser les actions des personnages. Et puis il y en a d'autres, tout ce qu'ils vont avoir, c'est une gomme, un crayon et des dés, point final. Et moi, je suis plutôt gomme, crayon, dés. Mais à tel point, quand je suis maître de jeu, quand les actions de mes personnages sont bien décrites, je leur fais même pas lancer de dés. Si je trouve ça cool, j'estime qu'elle est réussie.
C'est comme ça que fonctionne Geoffrey aussi.
On a plusieurs écoles à Ekat, on essaye de...
Thomas et Geoffrey, qui sont les deux maîtres du jeu les plus actifs, parce que moi, je me jette pas du tout.
Bientôt.
C'est vrai qu'ils font un peu partie des deux écoles, c'est-à-dire que Geoffrey est beaucoup plus dans le théâtre de l'esprit et Thomas beaucoup plus dans l'immersion.
Dans le plateau, effectivement. Et je pense que c'est un peu notre côté jeu de société qui ressort plutôt de mon côté à moi, et Geoffrey lui vraiment le côté jeu de rôle imaginaire, narration, conte, et c'est assez rigolo parce que du coup on s'oppose dans beaucoup de points avec Geoffrey, mais on se complète aussi beaucoup dans le travail qu'on fait quand on crée nos univers de jeux de rôle, et c'est déjà le cas sur les 3 univers qu'on a créés du coup chez Ekat Edition.
Alors d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ces 3 univers?
Notre premier univers, c'est Nouvelles Frontières. C'est un univers qui se passe dans un futur un petit peu dramatique. Si vous aimez Interstellar, Star Trek, Star Wars, vous allez tout de suite vous y retrouver, parce qu'en fait, Nouvelles Frontières, ça raconte l'histoire des humains qui sont partis de la Terre à bord de vaisseaux mondes, et ils cherchent en fait une nouvelle planète habitable. C'est un jeu de rôle assez simpliste, qui est très accessible à des novices, on va dire, du jeu de rôle, mais qui pour autant ne facilite pas et ne récompense pas tellement les actions des joueurs, parce que notamment Nouvelles Frontières, on a des caractéristiques de personnages qui sont très dévalorisées par rapport à la plupart des jeux de rôle. Ce qui fait que quand on lance un dé dans Nouvelles Frontières, on a souvent plus de chances de perdre que de gagner. Donc le joueur doit un petit peu vivre dans un univers assez dramatique, assez stressant, où il va plus perdre que gagner. Voilà.
D'accord. Alors ensuite, Marie, présente-nous le second univers.
Bon, moi, je pense que j'ai parlé de Bernard Lenoir. Alors du coup, ça, Bernard Lenoir, c'est un peu notre univers, comment dire, qui va se rapprocher le plus d'un escape game, entre guillemets.
Ouais, je trouve que ça sent l'escape game, juste Bernard Lenoir.
En fait, c'est pas un univers fictif, c'est la vraie vie, mais dans les années 30,
d'accord,
à Nevers.
D'accord.
Voilà, donc on se sert, enfin pas que à Nevers, parce qu'on va aussi aller dans le Morvan, voilà, mais on se sert vraiment
du territoire d'où
on est originaire tous les trois, pour raconter du coup des histoires autour d'un personnage, Bernard Lenoir forcément, qui est un détective privé.
Très bien.
Donc il y a un petit côté Hercule Poirot, Benoît Blanc, pour ceux qui ont vu À couteau ciré, voilà, ça va être ce genre de choses. Et donc, quand je dis escape game, c'est parce que c'est notre univers, donc il y a des enquêtes à résoudre, des indices à trouver. C'est surtout aussi c'est notre univers où on a le plus d'accessoires en jeu, parce que du coup, pour les personnes qui viennent jouer, ils vont avoir du coup des lettres en main, des morceaux de parchemin déchirés, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, ça c'est notre deuxième univers.
Très bien. Et alors,
juste, je rebondis sur ce que dit Marie, c'est vrai qu'il y a même un côté un peu domaine de l'épouvante, je trouve. Sur ce côté matériel, etc. C'est vrai qu'on retrouve des influences assez rigolotes.
C'est vrai, c'est vrai.
Est-ce que vous avez joué à un jeu qui s'appelle Bureau of Investigation ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Vous irez jeter un coup d'œil. C'est un jeu de plateau, mais il n'y a ni pion, ni dé, ni carte, ni plateau. C'est un jeu d'enquête, en fait. Donc, on a un livret. C'est la mécanique de jeu d'un jeu des années 80 qui s'appelait Détective Conseil. Et c'était à l'époque c'était basé sur Sherlock Holmes à l'époque, donc ça a été dévié. Et Bureau of Investigation, ça se passe pendant les années 30, mais c'est imprégné de l'univers de Lovecraft. Donc, on va y trouver tous les monstres et toute la partie horrifique science-fiction qu'on a dans Lovecraft. Mais allez voir, vous y trouverez peut-être des
j'adore.
Idées, c'est sympa.
Le principe me plaît beaucoup.
Et donc, le dernier univers, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est externe.
Externe,
voilà,
d'accord.
Voilà, donc le côté un peu western, steampunk. Donc en fait, on est dans un monde, on va dire, un peu doublé dans le sens où on a le monde intérieur dont viennent les humains.
Ouais.
Et le problème, c'est que dû à des problèmes de surpopulation, etc., ils vivent dans des espèces de gigantesques villes troglodytes.
Ouais.
Évidemment, ils se retrouvent obligés de sortir. Et ils découvrent le monde extérieur. Et avec ça, c'est un peu le côté conquête de l'Ouest, finalement. Conquérir voilà, un nouveau monde. D'ailleurs, ils découvrent le soleil, etc. C'est un truc incroyable. Et il y a un côté, c'est ça aussi, un peu envie de ressortir le côté un peu bayou, vaudou, etc. Sur certains points, etc. Aussi jouer sur, c'est ça, le côté conquête, liberté de l'Ouest, etc.
Donc, si on devait le définir, ce serait du western fantastique ?
Plus ou moins, oui. Même si j'aime bien, j'avais entendu parler de l'appellation weird western.
Alors, qu'est-ce que c'est weird
western ? Globalement, il colle ça souvent avec de la fantasy western.
Ouais, ouais, d'accord. Ouais.
Et j'avoue que j'aime bien cette idée de weird western, en plus d'avoir un nom un peu rigolo.
Traduit littéralement, c'est western bizarre. Donc
c'est ça.
Alors, du coup, trois jeux de rôle différents, trois mécaniques de jeu différentes.
Oui,
oui, tout à fait. Oui, oui.
Hein, donc, on le rappelle, un jeu de rôle, ça reste un jeu avant tout. Donc, il y a une mécanique de jeu, comme on peut trouver une mécanique de jeu dans un jeu de plateau, comme on peut trouver un gameplay dans un jeu vidéo. Un jeu de rôle a sa propre mécanique de jeu, c'est-à-dire que même si le matériel reste souvent des dés, un crayon de gomme et une fiche de jeu, la façon d'utiliser ces dés peut être différente. Il y a des jeux qui vont vous demander d'atteindre des seuils, donc on va lancer les dés, on va essayer de faire le score pour atteindre un seuil de difficulté pour réaliser une action, tandis que d'autres vont vous demander de réaliser, vous allez avoir un pourcentage et vous allez lancer un dé à 100 faces et vous allez essayer de faire en dessous de ce pourcentage pour réussir une action. Donc chaque jeu a sa mécanique, en tout cas chaque gamme a sa mécanique dans le commerce aujourd'hui. Vous proposez trois expériences de jeux différentes avec trois mécaniques ludiques différentes.
Exactement. Ouais, ça nous tenait à cœur de créer vraiment trois univers distincts sur leur, évidemment sur leur univers, sur leur thème, sur leurs histoires et aussi sur leurs règles du jeu. Et d'ailleurs, on a donc Nouvelle Frontière et Bernard Lenoir qui se jouent principalement au dé, alors que par exemple Externe se joue aux cartes.
Et oui, mais comme pour un jeu western, c'est cohérent.
C'est ça, il y avait la volonté de vouloir raconter quelque chose par le gameplay, justement.
D'ailleurs, ça parlera aux plus vieux joueurs de jeux de rôle, puisqu'il y avait le jeu Deadland qui était sorti dans les années 90, qui fonctionnait déjà avec un principe de carte à jouer au lieu de dés. On avait une main de cartes au début de la partie, et on devait l'utiliser intelligemment jusqu'à la fin de la séance, parce qu'on n'avait pas d'autres cartes, et ça permettait de réussir ou pas des actions.
Il y a un peu cette ambiance-là, en tout cas. On a un deck de cartes, mais on n'a que 6 cartes en main, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Et il y a un peu un côté roulette russe de tirer une carte sans savoir exactement que va être le résultat de l'action. Donc on a toujours ce côté hasardeux, mais tout en ayant voilà, ouais, l'utilisation ouais. de cartes qui est un peu chouette.
Ça nous paraissait important ouais, de garder ce hasard dans nos jeux de rôle, parce que le hasard dans le jeu de rôle, c'est le centre du gameplay, et ça permet aussi aux joueurs, et du coup au maître du jeu, à l'animateur, de se confronter à l'imprévu en permanence, et c'est ce qui donne un peu du piquant, je trouve, dans les parties de jeux de rôle.
Très bien, alors comment ça se passe? Moi demain, j'ai envie de pratiquer l'un de vos trois univers, j'ai envie de faire une partie, comment on fait?
En fait, donc on a ouvert en début octobre une salle de jeu de rôle à Nevers, dans laquelle Geoffrey ou moi animons des séances de jeu. En fait, ce sont des séances de jeu qui durent 2 heures, que vous pouvez réserver directement depuis notre site internet ou par téléphone, donc www.e4edition.fr. Et donc, ces séances de jeu durent 2 heures. Généralement, on dépasse quand même sur le temps indiqué, parce que des fois, on a besoin de bien finir l'histoire, donc on va pas couper à 2 heures pile avec Geoffrey. On arrondit un peu à 2h20, 2h30.
C'est ça le but, c'est pas de jeter les joueurs.
Exactement. Dehors. Et en fait, pendant ces 2 heures, on va faire vivre à tous les joueurs, donc jusqu'à 6 joueurs, une histoire un peu unique, des scénarios qu'on a créés dans nos 3 univers. Ça peut être un scénario d'enquête, d'exploration, de western, un peu plus combat, etc. On va faire interagir les joueurs avec des personnages, du matériel. On a aussi une ambiance lumineuse et sonore qui accompagne la partie et qui pour nous est centrale, on va dire, dans l'immersion un petit peu des jeux de rôle. Et bien sûr, nos jeux de rôle, nos animations de jeux de rôle sont accessibles à toutes et à tous, aux initiés comme aux débutants, surtout puisque nos jeux de rôle sont aussi étudiés pour convenir à des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. C'est aussi important pour nous de pouvoir démocratiser en quelque sorte ce jeu, ce type de jeu-là.
C'est ça, c'est un vrai plaisir d'avoir des non-initiés à la table. Mmh. C'est vraiment même ce qui est le plus amusant.
Faut presque voir ça comme un livre dont vous êtes le héros.
Ça peut être une bonne façon de parler du jeu de rôle aussi. Pour les plus jeunes d'entre nous qui n'auraient jamais eu un livre dont vous êtes le héros entre les mains, en fait, c'est un livre qui va être réparti en 400 paragraphes. Et dès le premier paragraphe, on vous pose l'action et on vous dit, je ne sais pas, vous êtes dans un couloir, il y a 3 portes. Si vous prenez la porte numéro 1, vous allez au paragraphe 25, à la porte numéro 2, au paragraphe 50, et la porte numéro 3, au paragraphe 300. Et vous allez avoir une histoire différente selon vos actions et vos choix au cours. Et chaque paragraphe va vous amener à un choix multiple de paragraphe suivant, et c'est des jeux c'est des livres qu'on peut ne pas avoir de chance et pas réussir à le finir, parce qu'on peut mourir comme dans plein de jeux hein, on peut mourir d'un seul coup, on tombe dans une trappe, c'est un piège, le livre est terminé, il faut recommencer du début, voilà, ça peut être possible. On peut aussi avoir des dés pour ce genre de livre, puisqu'on peut avoir des combats avec des personnages errants qu'on va rencontrer dans l'aventure,
qui sont du coup quasiment des jeux de rôle en fait.
C'est quasiment des jeux de rôle quand même.
Mais là par exemple, si on dit que demain vous venez pour faire du Nouvelle Frontière, vous allez arriver après avoir réservé bien sûr, et simplement vous allez vous mettre autour de la table avec donc soit Geoffrey soit Thomas. Déjà vous allez choisir le personnage que vous voulez. Alors pour Nouvelle Frontière, vous aurez le choix entre humains et robots par exemple, donc en sachant que les gameplays sont pas exactement les mêmes pour les humains que pour les robots, et après c'est parti, 2 heures d'histoire s'amuser, à rigoler, et puis vivre une aventure, quoi.
C'est ça, on essaye pendant 2 heures, les animateurs essayent de tirer un peu les fils de votre imagination, de la création, pour qu'on essaye de vous faire faire des choses un peu fun, un peu rigolotes. Et en principe, au bout des 2 heures, vous êtes content, vous avez passé une bonne séance. En tout cas, nous, on a des très, très bons retours.
Ça, oui.
Surtout, c'est assez étonnant, parce qu'on pensait que ça allait pas leur convenir, mais les enfants de 7-8 ans sont les plus conquis par le concept.
D'accord.
Voilà, et c'était pas du tout gagné d'avance, parce qu'on pensait pas que les jeux de rôle allaient plaire à des enfants de moins de 10 ans. Mais en fait, ça leur plaît, réellement. Ça plaît aussi beaucoup aux parents, donc voilà. Et puis, pour le petit côté commercial quand même, on fait des réductions assez fréquentes. Déjà, si vous venez au moins une fois à la salle, souvent vous allez repartir avec 10% de réduction pour votre prochaine séance. On fait aussi, s'il y a au moins un étudiant dans un groupe, on fait 10% pour tout le monde. Voilà.
D'accord. Eh bien alors, tu nous as déjà donné le contact, mais est-ce que tu veux bien nous redonner les contacts, nous redonner l'adresse de la salle
bien
et
sûr.
Les contacts,
ouais. Alors donc la salle se situe donc en haut de la place Chaméane, aux 4 rues de la préfecture à Nevers, donc c'est à peine à 150 mètres de la porte de Paris.
C'est pas loin de la médiathèque
c'est
non
ça.
Plus.
Et puis sinon, pour toutes les réservations, pour toutes les infos sur nos jeux, etc., ça se passe sur notre site internet, www.e4edition.fr, édition avec un S et E4 avec un H au début. Voilà.
Très bien, merci Geoffrey, merci Thomas, merci Marie. Je reviens vers vous en toute fin d'émission. Maintenant, on va parler du programme du mois de janvier pour le Conservatoire du Jeu. Alors, vous pourrez retrouver des interventions du Conservatoire du Jeu au sein de notre local, c'est-à-dire le bar associatif Le Pot Commun, le vendredi 12 janvier, où nous faisons une ouverture pour tous de 20 à 22 heures. Et puis ensuite, à 22 heures, on émigre au premier étage avec les adhérents. Et puis, le vendredi 26 janvier, où il y a une ouverture qui est uniquement pour les adhérents. Si vous souhaitez venir essayer l'activité alors que vous n'êtes pas adhérent, vous êtes bien évidemment le bienvenu sur n'importe quelle de ces dates. Évidemment, c'est un petit peu tôt pour parler du reste du programme du mois de janvier. Je vous invite, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou sur notre site internet leconservatoiredujeu.fr pour retrouver toute la mise à jour du programme du mois de janvier et des mois qui vont suivre. Je profite de cette dernière émission de l'année 2023 pour vous parler un peu des projets qui vont être mis en place par le Conservatoire du Jeu en 2024. En l'occurrence, dès le mois de janvier-février, devraient démarrer nos expositions de jeux itinérantes. Vous le savez sans doute, le fer de lance du Conservatoire du Jeu, c'est la préservation du patrimoine ludique et sa conservation. Pour cela, nous allons proposer dans différentes structures de l'agglomération neuversoise des expositions itinérantes. Tous les deux mois, nous changerons de lieu et nous proposerons une sélection de jeux anciens, de petites pépites, de petites raretés à venir voir. On vous en reparle dans une prochaine émission, évidemment. Sinon, le 2 mars 2024, le samedi 2 mars 2024, nous organisons les petites geekeries de Nevers à la grande salle des Éduins. Le même rendez-vous que l'an passé pour ceux qui étaient déjà venus. Donc, on vous propose du jeu de plateau, du jeu de trad, du jeu vidéo en accès libre et gratuit, mais également quelques exposants. D'ailleurs, si je ne m'avance pas trop, Ekat Edition devrait être avec nous ce soir-là. Ainsi que d'autres surprises. Il y aura aussi, évidemment, du jeu de rôle et puis des animations comme on a pu faire dernièrement à la manière de notre hippo glouton géant qui a eu un franc succès. Et puis, avant l'été, on reviendra bien évidemment le dernier samedi du mois de mai, donc à savoir le 25 mai, pour notre fête du jeu. Alors attention, 2024 va être une année à part. On organise systématiquement la fête du jeu en bas du parc Roger Salengro. Ce ne sera pas le cas en 2024 puisque nos dates tombent en même temps que la fête foraine. Donc on sera installé ailleurs à Nevers. On est en train de voir avec la mairie où exactement. On a quelques idées en tête, on vous en reparlera dès que ce sera fixé, mais la fête du jeu aura une organisation, un déroulement typique d'habitude. Donc on sera exactement sur le même format avec, comme toujours, du jeu traditionnel, du jeu vidéo, du jeu de plateau, du jeu de rôle en accès libre et gratuit, mais aussi plein d'animations et plein de structures du territoire qui viendront vous faire découvrir l'activité ludique. Pour finir, dernière petite info à la manière d'un bonbon de Noël, nous devrions organiser une belle exposition de jeux cet été quelque part sur la commune de Nevers, qui va faire suite à l'exposition qu'on avait fait en 2018 au Palais Ducal, exposition qui à l'époque s'appelait La Malle à Jeux. Et bien là, nous revenons avec une exposition qui vient dans la continuité de cette première expo où on avait présenté des jeux de 1850 à 1950. Et bien là, on va vous présenter des jeux sortis après 1950. Ce sera une exposition qui s'appellera certainement Les Jeux Vintage. Voilà, on sera pas mal, on démarrera avec des jeux des années 60 et des grands classiques, des histoires de raviver la flamme de la nostalgie. Notre émission se termine. Madame, messieurs, un mot pour la fin.
Pour l'instant, nos jeux de rôle ne sont que des séances de 2 heures, mais là, d'ici le mois prochain, on aura les campagnes. Ce sont plusieurs séances que vous pouvez réserver en avance pour vivre une aventure plus longue, répartie sur plusieurs séances, à des tarifs préférentiels, évidemment. Et puis, évidemment, on espère pouvoir revenir en 2024 aussi avec des jeux de société, des concepts de jeux de rôle et...
De nouveaux univers.
Deux univers de jeux de rôle qui arrivent, qui j'espère vous intéresseront. Et puis, honnêtement, passez de bonnes fêtes. Profitez de votre famille, profitez de vos proches. Et puis voilà.
Merci Marie, Thomas, Geoffrey d'avoir été mes invités pour cette 52e émission de À quoi qu'on joue. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le podcast de Bac FM, sur bacfm.fr, mais aussi sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Jeu. Alors, comme le disait Thomas, passez de bonnes fêtes, ne mangez pas trop pendant Noël, déballez des cadeaux qui dedans, il y aura des jeux pour jouer avec pendant toutes les vacances. Surtout, n'oubliez pas, soyez ludiques, à l'année prochaine.